Galilée Lagrange, 40 à Paris.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Au Burundi et en République démocratique du Congo, se dirige-t-on vers une révision de la Constitution pour permettre au président sortant de briguer à nouveau la magistrature suprême? Nous allons en parler ensemble durant les 20 prochaines minutes, d'autant que dans ces deux pays, la question agite véritablement la classe politique. Au Burundi, nous sommes à un an du scrutin présidentiel. Pierre Nkurunziza ne fait plus mystère de ses intentions. D'ailleurs, la semaine dernière, le pouvoir a tenté de faire passer un projet de révision, mais à la surprise générale tout de même, les députés l'ont retoqué. Du coup, hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé que le dernier mot reviendra à la Cour constitutionnelle. En République démocratique du Congo, le scrutin est lui prévu dans 2 ans, mais certains cadres du parti au pouvoir pensent déjà au scénario qui permettrait à Joseph Kabila d'être candidat à sa propre succession. Et ces derniers proposent, écoutez bien, de modifier le système de désignation du chef de l'État. Le président serait donc désormais élu par le Parlement et ce changement permettrait de mettre les compteurs à zéro. Alors que vous inspirent ces tractations? Ces scénarios ont-ils des chances de se réaliser? 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous réagissez également aux propos tenus cette semaine, c'était lundi sur notre antenne, par l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs. Il a prévenu que Washington sera vigilant quant au respect par les chefs d'État de leur constitution. Bonjour Godet.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Pointe-Noire, vous êtes au Congo, vous lancez le débat, vous dites au Standard que l'Afrique est malade de ses chefs d'État.
Et justement Juan, l'Afrique est bien malade justement de ses chefs d'État qui pensent que le meilleur moyen pour eux c'est de rester éternellement au pouvoir. Alors que en démocratie, on parle des principes et les principes c'est la Constitution qui est une règle générale. Et en ce qui nous concerne nous en Afrique, Juan, le seul moyen de favoriser justement l'alternance au pouvoir, qui pour moi est un principe sacro-saint de la démocratie, c'est d'inscrire, de verrouiller justement la limitation de pouvoir dans la Constitution. Or, il se trouve que malheureusement, la plupart des chefs d'État aujourd'hui, avec l'appétit du pouvoir, veulent rester au pouvoir en amendant les constitutions, ce qui n'est pas du tout normal.
Oui. Vous êtes surpris, par la décision du pouvoir burundais, qui dans un premier temps donc demande aux parlementaires, aux députés de s'exprimer sur un projet de révision. Le projet est retoqué à une voix près d'ailleurs, hein, ça s'est joué, camouflé donc pour le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza. Du coup, pour contourner le Parlement, le pouvoir décide de se diriger vers la Cour constitutionnelle qui aura donc le dernier mot. L'opposition dit mais cette Cour on la connaît, on sait très bien que son verdict ne sera que en faveur du président sortant. Vous êtes surpris vous par ce scénario ou pas?
Totalement surpris Juan, parce que pour moi c'est une véritable tamboule. On ne peut pas comprendre que ce même pouvoir qui engage une procédure en consultant l'Assemblée, le projet est retoqué et qu'aujourd'hui ils veulent se rabattre sur la Cour constitutionnelle. Or, nous savons tous comment sont désignées nos cours constitutionnelles ici en Afrique. C'est souvent des cours constitutionnelles sous ordre. Donc, nous avons déjà la décision que va prendre cette Cour constitutionnelle. Donc, moi, j'estime que c'est pas de très bonne manière. Ce n'est pas du tout normal que nous puissions vivre ces situations. L'Afrique ne mérite pas ça. Les peuples africains ne méritent pas ça. Il faut créer les conditions de l'alternance parce que tous les spécialistes Rwanda disent aujourd'hui que quand un chef d'État a fait plus de 2 mandats, il devient usé et inopérant. La suite, il passe tout son temps à gérer de la clientèle et à se maintenir au pouvoir. Donc il faut donner la possibilité, parce que l'Afrique aujourd'hui a des compétences, a des cadres. La période des personnes exceptionnelles ou des personnes, je ne sais pas comment on va les appeler, est finie. Aujourd'hui, l'Afrique a des cadres qui peuvent s'alterner au pouvoir pour diriger les pays d'Afrique. Donc il faut nous épargner de cela parce que c'est souvent source de conflit, Juan.
C'est source de conflit. D'ailleurs, c'est la principale inquiétude, par exemple, de l'opposition burundaise. D'ailleurs, de nombreux experts, de nombreux analystes estiment qu'une révision de la constitution au Burundi risque de saper le fragile équilibre ethnique entre Tutsi et Hutu. On rappelle que ce pays a été fragilisé par une terrible guerre civile qui a duré plus d'une dizaine d'années, 13 ans, que dis-je, non, plus de 20 ans, non, 13 ans exactement, excusez-moi, je me mélange dans les chiffres, une guerre qui s'est terminée en 2006, 300 000 morts tout de même en 13 ans, et voilà, une révision de la Constitution risquerait de remettre à plat et de compromettre le délicat partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi. Merci Godet de nous avoir appelé de Pointe-Noire. Mutombo, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour Zurgalati.
Alors vous êtes congolais, vous vivez au Burundi, vous nous appelez donc de Bujumbura, et vous avez donc une lecture hein, sur la situation dans ces deux pays, le Burundi et la République démocratique du Congo.
Oui, eh bien Juan, j'ai peur, j'ai bien peur. Je manque les mots, Juan. Eh bien, les guerres que nous avons connues dans cette région des Grands Lacs ont toujours eu pour cause la course au pouvoir. Les gens se sont battus pour le pouvoir, cette ethnie, ce groupe ici et là, et on a vu par exemple au Congo, il a fallu l'accord global inclusif pour qu'il y ait un système démocratique. Et voilà, on s'est entendu voilà, sur comment sera partagé le pouvoir, on a voté une constitution juste par après.
Ouais.
Au Burundi, il y a eu les accords d'Arusha.
Tout à fait.
Et maintenant, si on se permet de bannir, de fragiliser ces accords aujourd'hui, j'ai bien peur qu'on revienne dans ce qu'on a eu avant comme guerre. C'est vraiment triste que l'on apprenne ces tentatives d'abus de pouvoir et des manœuvres démocratiques, disons antidémocratiques ou autres. Mais il y a une chose que moi je me demande.
Oui.
Parce que beaucoup de dirigeants africains ont des sérieuses difficultés avec les principes démocratiques. Et donc là, il ne s'agit même pas des principes démocratiques, il s'agit beaucoup plus du respect de la parole d'honneur. C'est une question d'engagement. Lorsque vous prêtez serment devant la Sainte Bible, devant la Constitution, et devant le peuple congolais ou burundais, je ne sais pas de quel autre pays, c'est une parole que vous engagez. Et puis venir vraiment changer à ce moment précis, c'est une trahison pour le peuple. Ouais.
Vous parlez de trahison, on parle essentiellement ce matin de la République démocratique du Congo, du Burundi, d'autant qu'il y a eu ces propos tenus sur notre antenne par l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, qui a été très clair en disant que les États-Unis resteront vigilants et suivront de près, évidemment, les tractations s'agissant des révisions constitutionnelles dans les pays des Grands Lacs. Mais ça concerne également l'Afrique de l'Ouest. Michel, vous nous appelez de Ouagadougou?
Oui, bonjour Juan.
Et au Burkina Faso également, la révision de la Constitution fait débat.
Ben oui, Juan, ça fait débat. Moi, j'ai toujours dit que la communauté internationale doit essayer de prendre au sérieux cette affaire, parce que toutes les crises naissent de là. On écrit, on efface, on écrit, on efface, et finissent, on trouve que nos dirigeants ne sont plus sérieux dans tout ce qu'ils font. Si vous voyez tout dernièrement au Burkina, le Burkina Faso, c'est un pays paisible. Depuis que le président il a décidé de modifier la constitution, ça commence à faire du bruit.
Enfin, officiellement, le président n'a pas décidé de modifier la constitution. C'est plutôt c'est le parti présidentiel qui a lancé le débat, qui a posé le débat sur la table et qui souhaiterait évidemment que Blaise Compaoré puisse briguer de nouveau un mandat l'année prochaine.
Mais monsieur Wan, pour quelqu'un qu'on parle toujours de paix et dans la sous-région, il peut se prononcer. Déjà, il y a tellement de bruit, ça commence à mal aller. Pour quelqu'un réellement qui veut la paix pour son pays, Rollins l'a fait au Ghana. Il est parti, il a donné quelque chose de très formidable pour son pays.
Et en même temps, Michel, la constitution burkinabé n'interdit pas de réviser, de modifier l'article qui limite le nombre de mandats présidentiels.
Vous voyez, c'est ce qui est dangereux, Juan. On a toujours trouvé là, on n'aura jamais qui sera solide tant qu'on va toujours passer par quoi. Les juristes disent que non, il n'y a pas de raison pour aujourd'hui, pour le Burkina Faso, de faire un référendum. Et déjà, quand on regarde pour des pays pauvres comme le Burkina, c'est coûteux de faire un référendum.
Bien sûr, mais au-delà du coût de l'organisation d'un référendum, il y a aussi la possibilité de modifier la Constitution via le Parlement, hein, c'est prévu dans la Constitution burkinabé, mais au-delà de ce débat-là, l'article 37 peut être modifié, c'est écrit dans la Constitution. Donc, en modifiant la Constitution ou en souhaitant modifier la Constitution, le président Blaise Compaoré ne fait que respecter d'une certaine façon la Constitution, puisque c'est autorisé.
Mais Wan, vu ce qui se passe, vu l'atmosphère même, pour une personne qui veut réellement la paix, parce que de toutes les façons, s'il arrive à le modifier, je suis très sûr que ce pays va aller, il ne va plus aller dans la paix.
Mm-hmm.
Donc pour prévenir cette paix, quand même c'est Wan, on peut pas, c'est très facile de dire que non, je suis le seul, je vais terminer mes projets, il faut me donner dans la sous-région, je suis en train de... Non. Quand on ne va pas faire un changement, on ne pourra pas faire de comparaison.
D'accord. Merci Michel, merci d'avoir appelé de Ouagadougou. On reste au Burkina Faso, nous allons à Zorgo. Zorgo, c'est à 115 km à l'est de Ouagadougou, la capitale. Bonjour Albert.
Oui, bonjour. Ouais.
Vous souhaitiez réagir aux propos de l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, qui dans un entretien accordé à RFI en début de semaine, a clairement dit que les États-Unis resteraient très vigilants s'agissant des révisions constitutionnelles en Afrique et particulièrement dans la région des Grands Lacs. Et vous vous dites, après avoir entendu donc l'envoyé spécial des États-Unis, attention, la démocratie ne s'impose pas.
C'est ça. Alors, à mon humble avis, je pense que la démocratie ne doit pas être imposée à n'importe quel pays, d'autant plus que les pays africains sont des pays souverains. Nous pensons que c'est la population qui doit décider, voilà, de ce qui se doit passer au niveau du pays. Quand je prends l'exemple, par exemple, de la Tunisie, où c'est la population qui s'est mobilisée parce que tout simplement, on a pensé qu'il y avait la malgouvernance. Quand vous regardez aujourd'hui, effectivement, les choses sont en train d'être réglées, et que vraiment ça va mieux. Par contre, quand vous regardez au niveau de la Libye, où par exemple ça a été plus ou moins imposé, c'est l'Occident qui est venu aider la rébellion à mettre hors d'état de nuire le président libyen. Mmh. Alors regardez ces deux pays, ce n'est pas à comparer. La Tunisie va de l'avant, mais par contre la Libye est en train par exemple de sombrer. Donc nous pensons que les États-Unis, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays occidentaux, ne doivent pas jouer aux gendarmes au niveau de l'Afrique. Par contre, ils doivent former peut-être la population à la base pour que vraiment la population à la base la puisse imposer la démocratie dans leur pays.
Ouais.
La démocratie ne s'impose pas.
La société civile a donc un rôle à jouer selon vous, Albert. Merci, bonne journée à Zorgo. 33 9 693 693 70. Vous êtes nombreux si vous n'arrivez pas à joindre le standard. Un peu de patience, sinon vous réagissez et vous débattez entre vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission, 400 commentaires déjà. Le débat se poursuit également donc sur Internet. Bello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Kinshasa. Et alors vous, contrairement aux précédents auditeurs qui nous parlaient de la République démocratique du Congo et de l'éventuelle modification de la Constitution, vous êtes plutôt très, très optimiste.
Moi, je suis optimiste concernant le Congo. Je sais que dans la région, il y a pas mal de problèmes. Le Burundi, vous l'avez dit. Il y a l'Ouganda et le Rwanda, vous n'avez peut-être pas cité, mais ce sont des pays de la région.
Bien sûr, échéance électorale au Rwanda en 2017, et c'est vrai que déjà sur place, certains s'interrogent. Est-ce que le pouvoir va modifier la loi fondamentale pour offrir un troisième mandat à Paul Kagame? La question se pose également, effectivement, vous le disiez, en Ouganda, mais je n'ai pas sous les yeux l'échéance électorale, mais je l'aurai peut-être d'ici la fin de l'émission. Mais concernant le Congo, pourquoi êtes-vous optimiste?
Mais d'abord, premièrement, nous avons un chef d'État qui sait tenir parole. Et d'abord, c'est une parole qu'il a prononcée plusieurs fois. Et en tout cas, pour son premier mandat, il a été clair. Et au second, il a également confirmé qu'il allait être respectueux des règles. Et que nous les connaissons, il sait respecter, en tout cas, ses promesses. Aujourd'hui, il n'y a rien qui pourrait nous indiquer que nous allons changer quoi que ce soit dans la Constitution. Récemment,
Bello, vous dites, excusez-moi, Bello. Effectivement, le porte-parole du gouvernement a dit que l'article 220 qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels ne sera pas révisé, qu'il y aura bien une alternance en 2016. Mais en même temps, vous voyez bien qu'il y a quand même des cadres du parti au pouvoir qui essaient de trouver un scénario pour permettre de contourner ce fameux article 220.
Mais je suis d'accord avec vous, Juan. Mais le cadre, ils peuvent s'exprimer, ils sont libres, nous sommes dans une démocratie. Mais c'est le bureau politique de notre majorité qui devrait prendre une décision. Et même si on prend cette décision, le président de la République doit encore l'accepter. Donc aujourd'hui, les gens sont libres de réfléchir. J'en connais beaucoup qui pensent qu'il faudrait que le président de la République continue. Mais cela n'est pas la lecture du président de la République. Mmh. Le président de la République, c'est quelqu'un qui respecte les règles. Mmh. Aujourd'hui, je voudrais également dire un mot. C'est que les Américains, aujourd'hui, soutiennent des régimes qui ne respectent aucune règle de la démocratie, comme le Rwanda, comme l'Ouganda, et aujourd'hui veulent être regardants de tout ce qui va se passer dans la région. Je trouve ça un petit peu aberrant.
Aberrant selon vous, c'est donc de l'ingérence. Et c'est malheureux. Bello, merci d'avoir appelé de Kinshasa. 33 9 693 693 70. Amen. Amen Amour. Bonjour Amen Amour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Dakar au Sénégal, nous vous écoutons.
Oui, je vous appelle de Dakar au Sénégal.
Allez-y, vous êtes à l'antenne.
En fait, c'est un problème qui perdure depuis longtemps. Il faudrait que le chef d'État prenne conscience d'une chose.
Alors, attendez, Amel Amour, excusez-moi, le réseau sature un peu, là, vous avez peut-être le combiné trop proche de la bouche, on va régler ça hors antenne, et c'est promis, on vous retrouve dans un instant, qu'on puisse bien vous entendre. Qui avons-nous? Peut-être Marc? Alors, Mohamed à Conakry, bonjour Mohamed.
Allô?
Allô Mohamed?
Allô?
Qui est au téléphone, là? Alors là, je suis perdu, c'est Mohamed. Bonjour Mohamed.
C'est Mohamed de Conakry.
Exactement, je vous appelais, effectivement. Soyez le bienvenu sur l'antenne, on vous écoute.
Oui, merci bien, Monsieur Jean Romez. Voilà, moi, je vais aller tout droit au but.
Oui.
Je voulais dire que c'est le chef d'État qui essaie de s'accrocher au pouvoir par le tripatouillage de la Constitution. Il faut considérer cela tout simplement comme un coup d'État. Je l'ai dit, parce que
d'accord, vous l'avez
c'est
dit.
C'est comme un coup d'État, un d'accord. coup d'État militaire.
Ouais, mais comment empêcher? D'accord, c'est un coup d'État constitutionnel, c'est la formule habituellement utilisée par les oppositions. Comment convaincre les chefs d'État au pouvoir de ne pas modifier la Constitution? Quelle est la marge de manœuvre des citoyens, de la société civile?
Mais c'est très simple, c'est très simple. C'est-à-dire, il faut qu'ils sachent, quand ils dépassent leur mandat, ils n'ont le support de personne. C'est une réaction internationale qui doit condamner cet acte. Mmh. Respecter la régularité des deux mandats, trois mandats, ça dépend de ce que la Constitution dit.
D'accord.
Mais ne pas essayer de tripatouiller. Parce que quand on parle d'ingérence, en disant aux Occidentaux, par exemple, de faire pression sur le chef d'État, en disant que si tu fais ça, on ne va pas te donner de crédit, tu vas évoluer tout seul, on a réussi quand même à diminuer les coups d'État militaires. Parce que dès qu'il y a un coup d'État militaire, même au niveau de l'OUA, on condamne le coup d'État.
Ouais. Donc vous pensez que les sanctions peuvent porter leurs fruits, et vous le constatez, vous, avec une diminution du nombre de coups d'État, donc ça pourrait être la même chose s'agissant des révisions constitutionnelles. On va voir ce qu'en pense Marc, qui nous appelle de Bujumbura. Bonjour Marc.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous nous avez envoyé un courrier électronique. Vous êtes très déçu, vous, par le climat actuel dans votre pays.
Justement. Et alors, comme tous les intervenants avant moi également, disons, les changements de la Constitution, les tentatives de modification de la Constitution provoquent en moi un sentiment de déception et des sentiments de grave inquiétude. De voir qu'à l'heure où nous sommes, il y a encore certaines personnes qui s'estiment encore irremplaçables, et de voir que certains parmi nos dirigeants...
Mais Marc, jusqu'où peut aller aujourd'hui la tension au Burundi? On voit bien que le pouvoir veut tout faire pour que Pierre Nkurunziza puisse briguer la magistrature suprême lors de la prochaine élection. Jusqu'où peut aller cette tension?
Justement, et cette tension, c'est que, disons, le Burundi puisse vite retomber dans une guerre civile. Il suffit de voir, disons, l'intolérance qui règne ici. Et il y a, par exemple, deux semaines, certains membres de l'opposition avaient organisé une marche manifestation pour, justement, protester contre cet état de fait. Mais voir les échauffourées qui s'en sont suivies, les arrestations et les condamnations à perpétuité de ces...
Effectivement, il y a eu quand même 48 militants d'un parti d'opposition qui ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 ans de prison, je crois, à la perpétuité. On aura l'occasion, évidemment, de prolonger le débat. Pourquoi pas vendredi, d'ailleurs, dans la libre antenne. Demain, nous dresserons un bilan de l'action de Macky Sall au Sénégal. Il a été élu il y a tout juste 2 ans, le 25 mars 2012. Quel bilan, selon vous ? On en parle évidemment demain.